Histoire d'archives, notre rendez-vous mensuel, c'est tout de suite avec Céline Bonnard, directrice adjointe des archives départementales. Et aujourd'hui, Delphine Doléon. Bonjour.
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 Eh bien voilà, les commandes sont à vous. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une exposition.
C'est ça, tout à fait. Ben, je vous remercie de nous accueillir une nouvelle fois pour cette séance. Monsieur Labadie est en conférence par ailleurs, donc je suis venue aujourd'hui avec Delphine Doléon, notre chef du service des publics, qui m'accompagne et qui va m'aider aussi à présenter notre prochaine exposition en voiture, s'il vous plaît, puisque c'est elle qui l'a totalement mise en place avec son équipe. Je rappelle par ailleurs que l'équipe des archives des départementales est constituée de deux services, un service des fonds, chapeauté par Sophie Chouyal, et un service du public dirigé par Delphine Doléon, qui est à mes côtés. Voilà, donc on va vous présenter cette nouvelle exposition qu'on va inaugurer le 7 décembre prochain à 17h30 aux archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence à Digne-les-Bains, qui sera suivie d'une lecture musicale à 18h, mais ça, on fera peut-être un petit point à la fin de la séance sur les différentes actions que l'on a aux archives jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc notre prochaine exposition, voitures s'il vous plaît. Alors tout d'abord, pourquoi une exposition sur les voitures? Alors tout simplement parce que c'est parti d'un projet des agents, des archives. Beaucoup d'agents des archives s'intéressent aux voitures anciennes, et pas seulement que des hommes. Et d'ailleurs, les auditeurs que j'invite à venir découvrir l'exposition à partir du 7 décembre verront la petite touche féminine de cette exposition, mais je n'en dis pas plus. Voilà, donc c'est parti d'un projet d'agent, et puis effectivement, en regardant nos documents d'archives, on s'est aperçu qu'on avait une monticule d'archives sur l'évolution de la voiture, l'évolution des moyens de transport au 19e et 20e siècle, et on s'est dit que c'était l'occasion de mettre en valeur notre fonds, et puis aussi en lien avec l'actualité et la transition énergétique, la voiture est en pleine évolution, et donc c'était peut-être un moment intéressant pour pouvoir présenter l'évolution des moyens de transport et la civilisation de l'automobile. Cette exposition, en fait, se constitue avec une certaine muséographie. En fait, l'exposition s'appuie sur, s'articule à partir de plusieurs thèmes. Il y a les véhicules, il y a le cadre juridique, la circulation et les dangers. Et à l'issue de ça, il y a aussi, ça a été mis en place par notre service éducatif, un mur de route où justement le public pourra s'amuser à découvrir certaines routes. Hein, voilà. Et puis ont été mis en place aussi des anecdotes, hein, des anecdotes de femmes au volant. Et pas forcément la mort au tournant, justement.
Oui, on va déjouer ce proverbe.
Et puis, quelques notices de constructeurs, parce qu'effectivement, au début du XXe siècle, beaucoup de constructeurs se lancent dans la construction de l'automobile. Voilà, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui est un petit peu différent de ce que faisait M. Labadie, à savoir, on va vous présenter l'exposition comme si vous y étiez, c'est-à-dire qu'on va faire une circulation dans nos différents thèmes avec des documents d'archives qu'on a sélectionnés avec Mme Doléon et qu'on va vous lire. On va essayer d'être bon lecteur pour vous donner l'envie, et en tout cas pour ceux qui ne pourront pas venir découvrir l'exposition, au moins auront eu un petit peu de découverte de cette exposition que j'espère plaira au public. Alors tout d'abord, il y a les véhicules, en fait. C'est quand le public rentre, il y a les véhicules. Donc ce que je n'ai pas dit, pardon, c'est qu'effectivement, l'exposition, elle est composée de photographies, hein, de photographies de voitures anciennes, mais pas que. Il y a des documents d'archives. Et il y a aussi des objets. Et ça, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, des partenaires. En fait, on a réussi à récupérer des pompes à essence, en fait, hein, du musée de Salagon et de l'écomusée de Sisteron, que l'on remercie, bien entendu. Et un certain nombre d'objets qu'on peut-être on expliquera tout à l'heure. Et puis, on a quelques petites surprises aussi. Alors, je ne sais pas si on va tout dire aujourd'hui, hein, mais on a des choses. Je vais laisser après la place à Madame Doléon. Je vais commencer par l'apparition de l'automobile dans les Basses Alpes. En fait, hein, donc comme je vous disais, on s'est servi des documents d'archives. Et donc, on s'est aperçu qu'au fil des décennies, en fait, l'essor de l'automobile va profondément transformer la société. Il y a les moteurs à vapeur, à explosion ou électriques qui vont révolutionner les habitudes et entraîner des bouleversements. Rien que la facilité de transporter les personnes et les biens plus vite et plus loin modifie les vies. Le paysage lui-même est modifié avec le développement des infrastructures routières. Et l'automobile devient une véritable industrie de premier plan. En ville comme en campagne, elle s'impose et rend progressivement les animaux de bas spectateurs avant de les faire disparaître. Alors à son arrivée, l'automobile est quand même assez mal perçue. La cohabitation avec les calèches, les diligences et autres charrettes est délicate. Les routes ne sont pas adaptées, pas bien équipées, la signalisation est quasi inexistante. En 1903, le maire de Saint-Paul indique au préfet, je cite, que ce genre de locomotion n'est pas pratique dans nos pays, vu que nos routes sont étroites. La voiture, en effet, fait du bruit. La voiture rompt la quiétude, et particulièrement à la campagne. C'est peu répandu dans le département à ses débuts, mais son essor est cependant rapide. En juin 1903, le sous-préfet de Barcelonnette notifie dans un courrier au préfet des Basses-Alpes qu'il ne recense que 3 propriétaires d'automobiles dans son arrondissement, dont un seulement une voiture de tourisme. Une trentaine d'années plus tard, en fait, en 1938, on dénombre 189 voitures pour ce même arrondissement. Donc grâce aux progrès techniques incessants, que ce soit les moteurs, les pneumatiques, le volume des véhicules, l'automobile trouve petit à petit sa place et le nombre de fabricants d'automobiles augmente à vive allure. Ce sont des centaines de conduites intérieures qui sont désormais recensées. Alors, donc on a plusieurs marques qui sont variées, que ce soit Citroën, Peugeot, Renault, Fiat, Delage, Chenard, Delahaye, Dodion, Rosengart, Ford, Simca, Panhard-Levasseur, Bollé, Decauville. De fait, l'automobile en fait, suscite l'intérêt des pouvoirs publics et la mise en place d'un cadre réglementaire qui va se développer seulement à partir des années 1930. Outre l'évolution des infrastructures routières et de la signalisation, se développent aussi des nouveaux métiers, apparaissent de nouveaux lieux qui accueillent ces véhicules, des garages, des stations essence. Mais l'arrivée massive de l'automobile n'est pas sans conséquence puisqu'elle amène aussi des nuisances et des fléaux. Je vais laisser la parole à Madame Doléon, on va parler de concert en fait. Voilà.
Je vais vous lire un télégramme du maire de Saint-Paul en réponse au sous-préfet. Maire de Saint-Paul à sous-préfet Barcelonnette. Aucun incident ni dommage n'a encore été causé dans la commune par suite de la circulation des automobiles. L'esprit de la population est que ce genre de locomotion n'est pas pratique dans nos pays, vu que nos routes sont étroites et que des accidents pourraient survenir en se rencontrant avec des voitures et même avec des bêtes. Pas de plainte encore de postée. Le conseil municipal n'a pas encore formulé de vœux à ce sujet. Des arrêtés réglementant la vitesse n'ont pas encore été pris. Nous pouvons aussi vous citer comme illustration de cette thématique un courrier du sous-préfet de Barcelonnette à monsieur le préfet des Basses-Alpes. Donc ce courrier date du 20 juin 1903. Il n'existe dans mon arrondissement que 3 propriétaires d'automobiles. Monsieur Agacier, conseiller général, qui possède une voiture automobile à 4 ou 5 places, l'ingénieur des ponts et chaussées et un juge du tribunal de Barcelonnette, tous deux possesseurs d'un motocycle. C'est dire que ce moyen de locomotion est peu en usage chez les habitants de la région. La raison en est que, par suite de l'abondance et de la fréquence des chutes de neige, la circulation des automobiles est absolument impossible pendant près des 3/4 de l'année. Les 3 cols donnant accès à la vallée de l'Ubaye, col d'Alos, col de la Madeleine et col de Vars, ne sont guère franchissables pour les automobiles que du 15 juin au 1er octobre. C'est pendant cette période seulement que les touristes rayonnent dans l'arrondissement. Encore, le nombre de voitures automobiles est-il assez restreint, 2 ou 3 en moyenne par semaine environ. En somme, ce nouveau moyen de locomotion n'a pour conséquence aucune création d'industrie dans l'arrondissement. Le commerce qui en résulte est absolument nul. Il n'y a même aucun garage, aucun réparateur de voitures. Ce sont les mécaniciens eux-mêmes, aidés parfois des forgerons du pays, qui remédient à leur panne. Bien entendu, cette circulation n'a entraîné aucune dépréciation ou plus-value des propriétés rurales. Elle n'a pas davantage occasionné le moindre accident ou le moindre dommage. Aucun procès-verbal pour excès de vitesse n'a été dressé contre un conducteur d'automobile dans toute l'étendue de l'arrondissement. C'est que les chauffeurs les plus imprudents deviennent forcément raisonnables lorsqu'ils sillonnent nos routes. Celles-ci, notamment les routes du col d'Alos et du col de Vars, sont très accidentées, remplies de tournants dangereux et bordées de précipices profonds. La moindre imprudence, la moindre inattention, même du mécanicien, aurait les conséquences les plus terribles. Dans ces conditions, les populations n'ont jamais eu de plainte à adresser, les assemblées délibérantes n'ont jamais été amenées à formuler des vœux, et les maires ne se sont jamais trouvés dans l'obligation de réglementer la vitesse des automobiles sur le territoire de leur commune. En résumé, la circulation des automobiles est des plus restreintes dans l'arrondissement de Barcelonnette et les conséquences entraînées par ce nouveau mode de locomotion sont, à tout point de vue, à peu près nulles.
Voilà, comme on disait précédemment, hein, c'était, l'essor de l'automobile est venu progressivement. Toujours dans cette thème des véhicules, en fait, vient les constructeurs automobiles. De la fin du 19e siècle au milieu du 20e, un très grand nombre de constructeurs automobiles voient le jour et inondent le territoire français de modèles de plus en plus innovants. Héritier de Nicolas Gugnot, concepteur et réalisateur en 1769 et 1771 d'un fardier d'artillerie qui remplace le cheval de trait par un moteur à vapeur qui actionne une roue unique, et d'Alphonse Baudrochard, inventeur du moteur à quatre temps. Donc ces constructeurs, initialement fabricants de cycles, de matériel ferroviaire ou encore de moteurs d'avion, se lancent dans la grande aventure de l'automobile, avec plus ou moins de succès. Certains créent entièrement leurs modèles, d'autres uniquement certaines pièces, et les associent à celles conçues par leurs concurrents. Les véhicules sont tout d'abord fabriqués sur mesure dans des petits ateliers qui peu à peu se transforment en grandes usines où les automobiles sont construites en série. La concurrence étant rude, la publicité et le sport automobile s'en font les vitrines, mais un grand nombre de ces constructeurs font faillite, rachetés par leurs concurrents et, ou ne survivent pas au plan Ponce. Alors le plan Ponce, c'est un plan qui a été lancé après la Seconde Guerre mondiale pour rationaliser l'industrie automobile française. Et seul un petit nombre d'entre eux sort son épingle du jeu et quelques constructeurs réussiront à perdurer jusqu'à nos jours. Alors, je ne détaille pas les constructeurs. J'invite les auditeurs de Fréquence Mistral et le public à venir découvrir notre exposition. Toujours, donc là, on va changer d'item, en fait. On va passer au cadre juridique, parce qu'effectivement, l'évolution des moyens de transport va engendrer de nombreux changements dans la société et pas de conduite sans papier. Donc la multiplication des véhicules à moteur dans les rues des villes ou sur les chemins de campagne conduit les autorités à légiférer pour encadrer leur utilisation. En 1893, le 14 août, une ordonnance du nouveau préfet de police, Louis Lépine, instaure le certificat de capacité pour la conduite du véhicule dans la ville de Paris. Ce certificat permet la conduite de son propre véhicule, à moteur, à vapeur ou à pétrole, ou la conduite d'un véhicule utilisé dans le cadre de son travail. Valable uniquement pour le véhicule dont l'immatriculation est indiquée. Il est délivré par la préfecture, sur rapport de l'ingénieur des mines, et dans un premier temps, aux candidats de sexe masculin de plus de 21 ans. Pendant la Grande Guerre, en fait, cette limitation sera contournée. Le jeune Grivoni, âgé de 16 ans en 1915, voit sa demande appuyée par le préfet auprès de l'ingénieur en chef des mines pour obtenir le droit de conduire pendant la durée des hostilités. Le décret du 10 mars 1899 rend obligatoire l'obtention du certificat de capacité pour tous les conducteurs et l'étend sur tout le territoire français. Je cite « Nul ne pourra conduire une automobile s'il n'est porteur d'un certificat de capacité délivré par le préfet du département de sa résidence sur l'avis favorable du service des mines. Un certificat de capacité spécial sera institué pour les conducteurs de motocycles d'un poids inférieur à 150 kg. » En fait, il s'agit tout simplement de l'ancêtre du permis de conduire qui est né. Un récépissé de déclaration le complète pour matérialiser l'autorisation de circuler. Voilà, donc la demande d'obtention de certificat de capacité évolue doucement dans un premier temps, et c'est ce qu'on montre durant notre exposition. Donc brièvement, on voit qu'il y a 6 demandes en 1900, 13 en 1904. Sur la période allant de 1907 à 1913, leur nombre s'élève à 2 au minimum en 1910. Et à 90 au maximum en 1913. Puis, pendant la Première Guerre, 67 demandes sont faites en 1914 contre 4 demandes en 1918. Donc, à l'instar de ce que l'on constate sur le territoire national, la fin de la Première Guerre et les années 20 sont témoins de l'essor de l'automobile, Le nombre de demandes de certificats explose. On dénombre en fait 194 bordereaux de certificats comptabilisés pour l'année 1920. Voilà, les professions de ces demandeurs sont diverses et variées. Donc, on a pu découvrir qu'entre 1901 et 1920, les plus souvent cités sont des docteurs, des négociants, des quincailliers, des horlogers, des avocats. D'autres sont plus exotiques, comme le directeur des mines de Gaude, des percepteurs en retraite, des proviseurs de collège, des dentistes, des cochers, des médecins, voilà, et des négociants. De 1899 à 1921, la plupart des demandes de certificats de capacité émanent de résidents des villes les plus importantes du département. En effet, Digne recense 70 demandes, Manosque et Sisteron 62 demandes, Barcelonnette 60 demandes, Fort-Calquier 32 demandes. Mais certains habitants des villages basalpins manifestent également le désir de conduire ces nouveaux engins. 9 demandes sont enregistrées pour des habitants de Valensole, 8 pour Riez et 7 pour Josier. Voilà, ou 6 encore pour Bannon et 10 pour Lémé. Voilà, donc les habitants des zones plus rurales sont moins nombreux, mais tout aussi présents et on voilà, tout aussi présents. Pardon. Alors, je poursuis. Hein. Pendant la Première Guerre mondiale, un grand nombre de soldats passent le certificat de capacité. Ils obtiennent le certificat pour la conduite des automobiles militaires. Durant l'entre-deux-guerres, ils sont nombreux à en demander la conversion en certificat standard, tel Marius Vadon, qui a obtenu son certificat de capacité pour véhicules militaires en avril 1918 et qui demande sa conversion en août 1920. En 1922, le certificat de capacité est remplacé par le permis de conduire. On y arrive. L'âge minimum pour le présenter est alors abaissé à 18 ans. Donc c'est là qu'on voit qu'il ne cesse d'évoluer, puisqu'en 1954, les 6 catégories de permis sont créées, alors que ce soit auto, moto, motocyclette, poids lourd, remorque. Et c'est en 1992 que le permis à points entre en vigueur. En 2013, il y a la refonte du permis de conduire pour les États membres de la Communauté européenne, avec instauration d'un permis au format de carte bancaire d'une validité de 15 ans. Voilà. Et le permis rose à durée illimitée ne sera plus valide à compter du 20 janvier 2033. D'accord. Voilà. Donc c'est pour la petite... Ouais. Là, on vous fait l'évolution complète. Hein. Alors l'essor de l'automobile en fait, permet de circuler plus rapidement et plus facilement dans le département, sur le territoire français et aussi à l'étranger. Parallèlement au certificat de capacité, et suite à la Convention internationale relative à la circulation automobile du 11 octobre 1909, est créé le certificat international de route. Donc il remplace en partie le récépissé de déclaration, en usage depuis 1901 et ancêtre de la carte grise. Valable seulement un an et nécessitant des renseignements à la fois sur le véhicule conduit, mais aussi sur son propriétaire, et le ou les conducteurs du dit véhicule, il est obligatoire pour conduire à l'étranger dans les pays signataires de la Convention. C'est en 1926, avec la Convention de Paris, qui entre en vigueur en France en 1930, qui crée deux papiers distincts, à la fois le certificat international pour les automobiles, qui tiendra de carte d'immatriculation nationale, puis deviendra la carte grise et le permis de conduire. Dans le département, les demandes de certificats internationaux émanent de conducteurs de nationalité française, italienne et allemande, pour la plupart. En fait, le développement des automobiles est prétexte à prélever de nouvelles taxes. Une contribution sur les voitures automobiles est mise en place dès 1900. En effet, la loi du 13 juillet de cette même année assujettit les voitures automobiles à une taxe fixe de 5 francs pour chaque cheval vapeur ou fraction de cheval vapeur de la puissance de leur moteur. Je citais le texte. Donc le ministre des colonies, en fait chargé par intérim du ministre des Finances, informe les préfets en 1908 que le calcul se fera dorénavant d'après la puissance maximale. Voilà, donc là c'était les prémices du calcul du prix de l'immatriculation et de la carte grise actuelle. La vignette automobile est imposée en 1956. Voilà, créée pour alimenter un fonds national de solidarité, tous les véhicules doivent avoir leur vignette sur leur pare-brise et la renouveler chaque année. Cette taxe est supprimée en 2000. Depuis juin 2016, c'est la vignette critère qui fait son apparition dans certaines agglomérations. En fait, pour finir sur cette réglementation, l'afflux d'automobiles sur les routes françaises incite enfin les autorités à réglementer l'assurance automobile dans les années 1929-1930 afin de protéger, entre autres, les conducteurs de démarches abusives des assureurs. assurer sa voiture devient obligatoire en 1958. Voilà. Donc,
que c'est intéressant tout ça. Merci, Céline Bonnard.
Je vais peut-être vous lire du coup aussi alors on a choisi le courrier qui représente la première demande de certificat de capacité. Alors il ne s'agit pas d'une automobile mais d'un tricycle. Donc c'est la demande la plus ancienne qui soit conservée aux archives départementales et qui date de 1899. Donc c'est une demande qui est formulée par le marquis de Payerolles et qu'il adresse au préfet. Alors, monsieur, je possède un tricycle à pétrole, système Dion et Bouton, construction Peugeot, et je serais désireux de savoir si, d'après le décret sur la circulation des automobiles, je ne dois pas me faire délivrer un certificat spécial pour la conduite des motocycles. Je sais que pour les automobiles, le certificat est exigé. Au cas où il m'en faudrait un, pourriez-vous me renseigner, je vous prie, au plus tôt, sur les formalités à remplir et le modèle de la demande. Veuillez agréer, monsieur, avec mes remerciements anticipés, l'assurance de mes sentiments distingués. Et c'est signé Marquis de Jocasse. Voilà, donc c'est la demande la plus ancienne qui soit conservée aux archives départementales.
Est-ce qu'on fait une pause musicale, pardon ?
Oui, écoutez, oui. Allons-y.
Allez, on fait une pause avec Agnès Obel, Cameras Rolling.
Burn,
reprend donc la suite de cette belle description de l'exposition sur les voitures. En voiture, s'il vous plaît, avec Céline Bonnard et Delphine Doléon.
Alors, donc pour la suite, il nous a semblé quand même important de nous pencher un petit peu sur le rapport des femmes à l'arrivée de l'automobile dans le département. Donc on a essayé de faire un petit point sur les femmes basalpines au volant. Donc au début de l'automobile, il faut se rappeler que les femmes n'étaient pas nombreuses à manifester leur désir de conduire. Mais il faut aussi rappeler que l'ordonnance de 1893 précise que le certificat est destiné aux candidats masculins. Donc les femmes ne sont pas évoquées. Mais on a retrouvé quand même dans les archives qui sont conservées aux archives départementales quelques petites demandes de certificats de capacité qui provenaient de femmes. Donc de 1899 à 1921, nous avons retrouvé seulement 6 femmes qui apparaissent sur les bordereaux de certificats de capacité du département. Donc la toute première dont nous avons une trace, c'est Bertha de Tourtoulon, qui était domiciliée dans la commune de Valensole et qui a fait sa demande en 1901. Alors, elle était épouse de Pierre de Tourtoulon, qui était docteur en droit, professeur à l'université de Lausanne, et qui était lui-même le fils de Charles de Tourtoulon, avocat, érudit, philologue, occitaniste, premier président de la Société des Faits Libres de Paris. La deuxième demande que nous avons retrouvée, donc elle émane de Marie-Louise Tron, qui était domiciliée dans la commune de Barcelonnette et qui date de 1915. Nous avons ensuite trouvé une demande émanant de Marguerite Amiel, de la commune de Manosque, et qui est datée de 1918. Et pour les trois dernières, donc elles émanent de Jeanne Gardiol, de Marie Lautaré et de Germaine Ponce, et elles datent de 1920. Et pour celles-ci, par contre, nous n'avons pas le détail de leur commune d'origine.
Bah, c'est sympa d'apprendre tout ça.
Dans les thématiques et les différentes thématiques que nous avons abordées dans notre exposition, nous avons abordé la thématique que nous avons appelée circuler, donc qui parle des garages, du ravitaillement et de la signalisation. Donc pour faire un petit point sur les garages, nous pouvons vous dire que les premiers garages pour automobiles dans le département y voient le jour à partir de 1898. Ils sont tout d'abord réservés aux cycles et aux motos. Et ils s'ouvrent progressivement au monde de l'automobile. Ces établissements restent un temps assimilés plutôt à des commerces. C'est le cas notamment à Sisteron, où le commerce Honora pour cycles et automobiles est photographié vers 1905 par Saint-Marcel et Séric. Dans les zones rurales, le garage reste une petite entreprise plutôt familiale, bien implantée au cœur de la ville ou du village, souvent issue de la maréchalerie ou même de l'écurie de louage ou encore du charronnage. Comme Paul Grasset de Sisteron, qui était charron en 1900, qui est ensuite charron garagiste en 1920 et garagiste dans les années 30. Et si l'activité évolue, l'emplacement pour son activité reste le même au fil du temps, et c'est-à-dire qu'il était localisé Porte du Dauphiné. Donc je ne veux pas révéler tout ce qu'il y a dans notre exposition, mais vous trouverez notamment des photos de ce garage Grasset dans notre exposition. Les activités des garages peuvent être diverses et variées. Donc, en plus de faire le plein, de demander une réparation, on pouvait aussi y acheter son pain, son tabac ou son journal, et même parfois y prendre un verre, comme c'est le cas dans la commune de Labégude, où Antoine Sylvie fait une demande pour ouvrir un garage-café en 1928.
Voilà, donc on vous sème quelques petites graines, en fait. Hein, on ne vous dévoile pas tout. L'idée, c'est quand même que vous veniez découvrir notre exposition. Donc, il y a un certain nombre de sous-thèmes qui seront à découvrir. Là, moi, je vais en venir aux accidents, en fait, hein, puisque nous avons des archives qui relatent de ce fléau moderne, en fait, hein, avec l'apparition de l'automobile et des accidents. Il ne faut pas attendre la diffusion de l'automobile sur les routes pour assister justement aux accidents de la circulation, puisque dans une circulaire du 15 décembre 1832, le procureur général rappelle au procureur du roi que les règlements en place sont, je cite, « mal exécutés » et il en résulte une foule d'inconvénients. Les charretiers ne se tiennent presque jamais à portée de leurs chevaux. Ils refusent de se ranger pour laisser passer les autres voitures, ou ne se détournent qu'avec une lenteur affectée. Souvent, ils s'endorment sur leur charrette, dont la direction est ainsi abandonnée au hasard. De là, des retards, des disputes, des accidents aussi, contraires au bon ordre qu'à la sûreté des routes et à l'intérêt des voyageurs. Donc là, on retrouve également, dans la presse ancienne, un certain nombre d'articles évoquant ces accidents de véhicules hippomobiles, des accidents de charrettes, de chars à bancs, suivis des accidents provoqués par le côtoiement des animaux de bas avec les premières automobiles. On va vous citer quelques petits articles de presse à ce sujet. Simplement, pour rappeler que l'automobile, en fait, accroît avec le nombre d'usagers sur les routes des campagnes et avec la possibilité de rouler plus vite. Et donc, il y a une nouvelle forme de violence qui apparaît. En fait, l'automobile est alors perçue par le plus grand nombre, et particulièrement en zone rurale, comme un fléau. Elle effraie les animaux. Les automobiles sont surnommés les tueurs de poules. Et dans un télégramme adressé au sous-préfet de Barcelonnette, le maire d'Alos notifie que il n'y a pas eu encore dans la commune des accidents ou dommages occasionnés par les automobilistes. N'est reçue aucune plainte, mais la population est hostile à ce genre de locomotion, car les automobilistes effraient les bêtes de travail rencontrées sur la route. Voilà, donc c'est ainsi qu'en 1889, les premiers arrêtés font leur apparition, mais la régulation par l'État, en fait, met du temps à se concrétiser. Après le premier quart du 19e siècle, la voiture n'est plus une rareté, et on accorde aux maires la possibilité eux-mêmes de réglementer la circulation dans leur agglomération. Cette disposition, qui est notamment appliquée par le maire de la commune de Noyers, qui, dans un arrêté datant du 24 juin 1907, déclare « Les véhicules traversant les agglomérations de la commune à une vive allure peuvent causer des accidents. Il est interdit aux automobilistes, motocyclettes, bicyclettes, de traverser les agglomérations de la commune à une allure supérieure à 5 km/h. » Donc, au fil des décennies, les acteurs de la prévention routière vont pousser les autorités locales et nationales à renforcer les dispositions pour justement protéger les conducteurs et les piétons. Et néanmoins, l'automobile reste source d'accidents et de nuisances. Voilà, donc là, on va vous citer quelques articles de presse, en fait, où sont relatés des accidents.
Alors, donc je vais vous lire un article qui est paru dans l'Écho des Alpes le 17 mai 1903. Arrondissement de Castellane, Thoram Haute. Accident de voiture. Samedi dernier, un accident de voiture qui aurait pu avoir des suites très fâcheuses est arrivé à M. Brun-Joseph sur la route de Plan de Lys à Saint-André, à quelques mètres du pont de la Fleur. Son cheval, pris de frayeur à la vue d'une voiture chargée de planches, se mit à reculer et vint malencontreusement se jeter dans le lit du Verdon, à une hauteur de 15 mètres. Le cheval s'est tué dans sa chute et la voiture a été brisée. Monsieur Brun avait su éviter le danger en sautant juste à temps de la voiture.
Ouais, c'est surprenant. Ouais.
Toujours un accident, là, cette fois, dans l'Écho des Alpes, cette fois-ci à Digne. Donc, datant de 1903, le 17 mai 1903, je lis. Dans le courant de la semaine dernière, à 2 km de la ville, sur la route de Gobert, à l'un des tournants le mulet de M. N, attelé à un char à banc, monté par 4 personnes, fut pris de peur par la rencontre d'une automobile venant en sens contraire. L'une des 4 personnes, en sautant au-dessus de la voiture pour arrêter la bête effrayée, a reçu plusieurs contusions aux jambes. Elle en sera quitte pour quelques jours de repos.
Alors, nous allons enchaîner par toujours un article qui relate un accident qui date du 24 septembre 1893 à Fort-Calquier. Accident. Un bien regrettable accident a émotionné notre ville la semaine dernière. Monsieur Romineau, fermier de Monsieur Gaudin, conduisait une charrette chargée de blé et attelée d'un jeune mulet. Quand il arriva vers le chemin qui conduit à Saint-Pancras, une détonation retentit. Le mulet, effrayé, fit un écart et partit comme un trait, renversant son maître qui tomba sous les roues du véhicule. Une roue lui passa sur le corps en lui effleurant le visage et lui occasionna de graves blessures. Lorsque l'on a trouvé gisant sur la route, on s'est empressé de le transporter à l'Hôtel Dieu, où les premiers soins lui ont été donnés par Monsieur le docteur Bernard. Son état, quoique grave, permet d'espérer son prochain rétablissement. Quant à la détonation, on n'a pas pu savoir d'où elle partait. On ne sait si c'est un coup de fusil ou un coup de mine.
Toujours donc dans l'écho des Alpes, un accident dans l'arrondissement de Castellane à Entrevaux, donc datant de 1895. Samedi dernier, 23 février, le sieur Gubert fit la rencontre sur le chemin vicinal du Brec du sieur Cy, qui conduisait une mule. Cette dernière s'était mise à ruer et fit rouler le sieur Gubert dans un précipice d'une trentaine de mètres de hauteur. Les blessures de la victime de cet accident ne paraissent pas graves et elle en sera quitte par le bain forcé qu'elle a pris en tombant dans un bras du Var qui découle au pied du précipice. Sisteron, accident d'automobile, en 1903. Monsieur et Madame Honora Jeune et Monsieur et Madame Morère étaient allés dimanche faire une promenade en automobile. Arrivés au quartier de Beaulieu, ils rencontrèrent une charrette chargée de fagots. Monsieur Morère, qui se trouvait assis sur le siège arrière, craignant que l'automobile aille buter dans la charrette, eut la fâcheuse inspiration de sauter à terre. Dans sa chute, il eut la malchance de heurter une pièce de l'automobile et il se fractura la jambe au-dessus du mollet. Le blessé fut immédiatement ramené à son domicile et il en sera quitte par un ou deux mois de repos.
Arrondissement de Fort-Calquier, Mannes, article du 11 septembre 1895. Mercredi, un accident est arrivé à M. Turin, candidat à l'élection législative du 8 décembre, dans les circonstances suivantes. M. Pain conduisait le candidat se rendant dans une commune pour donner une réunion lorsque le cheval s'emballa presque à la sortie du pays. Cheval, conducteur et candidat allèrent verser quelques 100 mètres plus loin. Monsieur Pain mit un autre cheval à la voiture et le candidat put continuer sa route. Aucun accident de personne n'est à regretter.
Voilà pour ces petits articles qui figurent dans l'exposition et de assez, comment dirais-je, assez pittoresque en fait, hein, d'accidents, de mulets, voilà, et de charrettes retrouvées. Mais il y en a plein d'autres en fait, hein, voilà, et on invite encore une fois les auditeurs à venir découvrir notre exposition. On peut peut-être juste dire quelques mots. Il y a aussi la prévention routière, c'est en fait toujours dans ce circuit en fait, hein, le public pourra découvrir l'exposition et finira par la prévention routière. Donc je ne vais pas m'épancher trop dessus, mais voilà, donc on essaie de, à partir du code de la route en fait, hein, il y a certaines mesures qui permettent en tout cas de réglementer et de protéger les usagers de la route, et effectivement donc des mesures qui sont prises au fil du temps. Donc, qu'il s'agisse de la vitesse, donc le public découvrira nos archives en fait, hein, parce que chaque commune pourra réglementer la vitesse dans l'agglomération. Hein, simplement, je peux juste dire effectivement que l'une des premières mesures, voilà, donc c'est la limitation de vitesse qui est imposée par le décret de 1899. Hein. Donc l'article en fait 31 de ce décret du 31 décembre 1922 autorise les préfets et les maires à édicter des prescriptions spéciales en matière de circulation et du roulage. Alors dans les Basses Alpes, à Noyers-sur-Jabron par exemple, la limitation de vitesse est fixée à 5 km/h en 1907. Voilà. C'est souvent comme ça. Donc le public pourra découvrir la limitation des différentes communes, en fait.
Hein. Oui, 5 km/h, c'est comme
et oui.
À la marche, pratiquement.
C'est ça.
À la marche d'un bon pas. Et oui.
Dès 1903, pour veiller justement au bon respect du code de la route, bon, les agents sont munis d'un sifflet en métal du système dit à roulette pour imposer l'arrêt aux automobilistes en les prévenant par l'émission d'un coup de sifflet suffisamment aigu et prolongé pour qu'il puisse être distinctement perçu. On a justement une archive là qu'on va peut-être vous lire avant de clôturer. C'est assez pittoresque. Alors je cite en fait. Hein. Donc c'est le préfet des Basses-Alpes qui s'adresse au maire du département le 13 janvier 1923. Afin de généraliser le mode de l'avertissement qui doit être donné par les gendarmes aux automobilistes qui conduisent leur voiture à une vitesse dangereuse pour les autres usagers de la route et se mettent ainsi en contravention soit avec le décret du 31 décembre 1922, soit avec les règlements municipaux applicables dans les différentes localités, il importe que tous les agents qualifiés pour dresser des contraventions en la matière imposent l'arrêt aux automobilistes en faute et les préviennent par l'émission d'un coup de sifflet. Voilà, comme je disais, suffisamment aigu et prolongé pour qu'il puisse être distinctement perçu par les contrevenants en toutes circonstances. À cet effet, les maires des communes traversées par ces routes fréquemment sillonnées par des automobilistes devront munir d'urgence les gardes champêtres et les commissaires des agents de police placés sous leur ordre d'un sifflet en métal du système dit à roulette. Voilà. Donc c'était un petit peu le mode pratiqué. Mais plein d'autres mesures sont prises hein, par les pouvoirs publics. Et puis après, évidemment, les mesures en lien avec l'alcool au volant. Voilà. Mais je n'en dis pas plus. Encore une fois, nous accueillerons avec plaisir le public dans notre exposition que nous inaugurons, je rappelle, le 7 décembre prochain à 17h30 aux archives départementales. Voilà.
Sans dévoiler toute l'exposition, voilà. On peut peut-être juste dire que nos collègues médiatrices ont pensé à un petit jeu pour réserver un petit moment ludique aux gens qui viendront visiter l'exposition à la fin de l'exposition, que nous avons collecté quelques petites anecdotes sur les femmes que nous partagerons aussi avec vous à cette occasion. Et que, comme disait Madame Bonnard, nous avons fait un partenariat notamment avec l'écomusée de Sisteron et le musée de Salagon pour ce qui est du prêt d'objets que nous allons exposer en même temps que nos documents d'archives. Donc notamment des pompes à essence, qui sont un petit peu le clou de l'exposition, et d'autres objets comme des bidons d'huile, des roues de charrette, d'automobile, des petites voitures. Nous avons aussi des plaques, des anciennes plaques d'immatriculation. Voilà, pas tout dire, mais...
Oui, ça s'annonce passionnant, et bien sûr qu'on a tous et toutes envie de venir voir cette exposition en voiture, s'il vous plaît, aux archives, donc dès 17h30, le jeudi 7 décembre.
C'est ça, tout à fait. Alors on n'en dit pas plus, on veut simplement juste dire qu'il y aura peut-être une surprise sur le parvis des archives, mais nous n'en disons pas plus. Voilà, donc venez nombreux à cette inauguration qui sera suivie d'une lecture musicale par le collectif Et autres choses inutiles qui nous viennent de Fort-Calquier. Je ne peux pas trop vous en dire non plus puisqu'il s'agit d'une création de leur part. En fait, on leur a donné tous nos documents d'archives de l'exposition et on les laisse faire. Et ils vont nous concocter un petit spectacle, alors une lecture de nos archives, mais pas simplement, ils vont aussi faire une création... audiovisuel. Alors voilà, donc venez nombreux, 17h30 à l'inauguration et la lecture musicale à 18h, je pense que ça risque d'être passionnant. Voilà, on peut peut-être clôturer pour l'exposition.
Vous avez encore le temps de donner quelques informations.
Et finir sur l'action culturelle, oui. Au moins jusqu'à la fin d'année des archives en fait. Hein. Voilà, donc...
Allez.
Donc, comme nous l'avons dit, il y a l'inauguration, mais avant cela, il y a ce soir, en fait. Il y a une conférence de Jean-Christophe Labadie, donc le directeur des archives départementales, qui donne une conférence sur la répression allemande autour de Pépin et d'Obidiensk. Voilà. Donc, c'est des thèmes qui sont chers à M. Labadie, hein, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Et donc il donne sa conférence à Pépin, à la salle polyvalente, donc ce soir à 18h, donc c'est une entrée libre, hein, voilà, donc venez aussi écouter M. Labadie autour de la répression allemande. Voilà, donc cette première conférence. S'ensuit, comme nous disions, l'inauguration de notre exposition. Et nous avons deux autres conférences avant la fin de l'année. Je peux peut-être laisser la parole à Mme Doléon.
Alors, nous aurons une conférence sur Eugène Lyons, un basalpin au Mexique. Donc, une conférence qui a été préparée par Madame Hélène Holmes, conservatrice du musée de la Vallée à Barcelonnette, et Monsieur Labadie, donc directeur des archives départementales. La conférence sera faite par Madame Holmes le 14 décembre, donc jeudi 14 décembre, à 18h, aux archives départementales.
Et alors, il s'agit aussi d'un fonds... Eugène Lyons, que les archives départementales ont acheté, en fait. Hein. Donc voilà, donc ça sera l'occasion de valoriser aussi ce fonds d'archives privées. Bien sûr, Madame Holmes, qui est une spécialiste de tout ce qui concerne les archives en Ubaye, voilà, donc nous fera une conférence ce jeudi 14 décembre. Voilà. Et enfin, pour finir l'année, en fait, hein, y a Jean-Christophe Labadie, donc directeur des archives, qui se propose de faire une conférence sur Noël. Noël dans les Basses-Alpes, voilà. Donc, pour finir l'année, donc, il va nous proposer à la fois des archives, mais aussi nous expliquer un petit peu cette fête très populaire du calendrier religieux, en fait. Hein. Elle se caractérise, par un mélange entre le profane et le sacré. Et voilà, donc il va nous faire découvrir un petit peu quelques Noëls d'antan, avec des temps exceptionnels ou temps ordinaires. Voilà, donc venez ce jeudi, alors ce sera jeudi 21 décembre, aux archives départementales à 18h. Voilà pour les actions culturelles jusqu'à fin décembre. On peut peut-être aussi dire un petit peu ce qui va se passer en début d'année, parce que nous avons déjà un programme bien
mis
ficelé
en place, oui.
Et riche.
Alors, la première conférence donc, aura lieu le jeudi 25 janvier 2024 à 18h aux archives départementales. C'est une conférence qui sera faite par M. Alain Agnel Giacomoni, qui est généalogiste professionnel, et qui va nous parler de Gaspard de Glandève-Niozel, donc l'homme qui osa défier Louis XIV. Et il nous parlera de sa vie sur les terres de Haute-Provence à travers les archives. Peut-être juste vous préciser, rappeler pour les gens qui ont l'habitude de venir aux archives départementales que les archives départementales seront fermées 2 semaines en janvier. Et que donc cette conférence aura lieu la semaine de la réouverture des archives au public. Donc nous sommes fermés du 8 janvier au 20 janvier.
C'est noté.
Voilà. Et comme d'habitude, oui, cette fermeture au public est faite pour que nous puissions faire des travaux de réorganisation au sein de notre service.
Voilà. On réorganise les magasins. Voilà. C'est cette fermeture publique qui est nécessaire pour nous, en fait, hein, pour nous permettre de travailler vraiment dans les magasins, en fait.
En attente de l'extension.
Voilà.
Trouvant des moyens de gagner de la place.
Puisque les archives sont saturées, en fait. Hein, donc, effectivement, notre extension est en bonne voie. Le bâtiment se construit bien. Mais voilà, en attendant, il faut réorganiser un petit peu pour permettre de toujours d'accueillir nos archives. Voilà. Nous poursuivons donc l'action culturelle donc en janvier avec une nouvelle conférence en fait proposée par Monsieur Labadie autour de la lavande en fait. Donc la lavande, une histoire parfumée. Voilà, conférence de Jean-Christophe Labadie, donc directeur des archives, proposée à Valensol, la salle Tardieu, le samedi 3 février 2024 à 18h30. Voilà, donc il sera question d'évoquer la lavande qui revient justement à imaginer un champ aux couleurs bleues et violettes. Les Basses Alpes sont un des pays de la lavande et donc des manifestations ont pris pour sujet la lavande dans son temps, le Grand Corso de Digne, bien sûr, une ville qui se revendique comme la capitale de la lavande. Donc voilà, donc...
Ce sera où, pardon ?
Alors, ça sera donc à Valensol, à la salle Tardieu, samedi 3 février à 18h30.
Merci. Voilà.
Alors, nous avons aussi prévu, entre le mois de février et le mois de mars, une restitution table ronde sur l'Observatoire du Mont Chiran. Donc ça sera le 22 février et exceptionnellement ça sera plutôt dans l'après-midi. Donc ça sera le jeudi 22 février à 14h aux archives départementales. Ce sont les personnes qui ont été à l'origine de la création de l'Observatoire du Mont Chiran qui vont se réunir. On vous proposera la projection du film qui a été fait, notamment par M. Bourlon et M. Bailleto. Nous l'espérons, une projection d'un film en 16 mm sous le format original et qui sera suivi d'un débat et d'une restitution de la façon dont cet observatoire au Mont Chiran a été mis en place à la fin des années 60 et ce qu'elle a permis d'apporter à tout ce qui est observation et astronomie. Et nous espérons coupler ça avec une conférence de Madame Danielle Allouin, qui serait au mois d'avril, le 11 avril.
Voilà. Oui, tout est donné. Non, vous avez le temps.
Ah bon. Oui, non, on poursuit. En fait, il y a une nouvelle conférence qui est donnée par Michel Fixeau, qui est archéologue médiéviste, qui nous proposera une conférence sur les sites archéologiques de l'Antiquité au Moyen-Âge dans les Alpes d'Haute-Provence et la région. Voilà, et cette conférence sera autour des grands, autour du guide de sites de l'Antiquité au Moyen-Âge, donc son guide en fait. Hein. Et il propose cette conférence aux archives départementales le jeudi 29 février 2024 à 18h. Voilà, donc il présentera son ouvrage, donc le guide, et sa présentation voilà, couvre une période au cours de laquelle c'est vrai que s'est effectué le passage d'un monde à l'autre, en fait, hein, de la cité antique à la chrétienté médiévale. Voilà. Donc ça sera sûrement très intéressant. S'en suivra une lecture musicale à Valensole, mais nous n'avons pas encore la date, donc, mais vraisemblablement au mois de mars. Mais ça, on vous reprécisera d'ici là, en fait. Hein.
Et à la fin du mois de mars, le 28 mars, à 18h, aux archives départementales, nous aurons aussi une conférence de M. Yanis Nassef, qui est professeur agrégé de géographie, et qui viendra nous parler des villages abandonnés à la fusion des communes dans les Alpes de Haute-Provence, réussite ou incohérence géographique. Donc il abordera le thème de toutes ces petites communes qui ont été des petits villages qui ont été abandonnés et ou qui ont fait l'objet d'une fusion pour continuer à exister en fait dans le département.
Peut-être pour terminer, une conférence de Sylvie Deroche. Alors Sylvie Deroche est professeure d'histoire-géographie au Collège Borély et également professeure relais au service éducatif des archives départementales. Et elle va proposer une conférence sur les enfants cachés du Fangais de 1943 à 1944. Donc voilà, il s'agit donc de Jamy Bisserier et Simone Chaumet en 1943-44. Des membres de l'Amitié chrétienne qui se consacrent au sauvetage d'enfants juifs et qui cachent une douzaine d'entre eux dans un chalet des auberges de jeunesse au col du Fangais.
Ce sera quand ?
Et donc ça sera le jeudi 4 avril à 18h aux archives départementales.
Voilà. Parce qu'il y a déjà eu hein, cette conférence, alors, mais ailleurs.
Alors effectivement, elle l'a donnée à l'occasion des Journées du patrimoine. C'était alors... c'était au mois d'août, effectivement, à Saïnes-les-Alpes, voilà. Où elle a donné cette conférence. Voilà.
Donc on aura la chance de la voir à Digne.
Et donc là, elle sera à Digne pour redonner cette conférence, effectivement.
Merci.
Merci à vous. Merci à vous.
Donc on rappelle aussi que toutes ces conférences, tout ce programme est disponible sur le site
tout à fait.
Des archives.
Archives www.archives04.fr et ainsi que le catalogue de l'exposition, hein, qui donc il y aura un catalogue gratuit, mais aussi mis en ligne sur notre site internet. Voilà, donc le public pourra aussi découvrir notre exposition à partir de notre site. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Et puis à une prochaine fois pour d'autres histoires d'archives sur Fréquence Mistral. Bonne journée et à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.